France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aujourd'hui, dans votre book club, des vies de femmes au XXe siècle reliées par un combat en particulier, celui pour la liberté d'avorter. Alors que l'on discute dans la France de 2023 de la possibilité d'inscrire ce droit dans la Constitution, nous faisons dialoguer la comédienne Ariane Ascaride, qui porte sur scène les mots de l'avocat Gisèle Halimi, avec la romancière Martine Van Vorkens, qui les cite dans son premier roman Les Faiseurs d'Anges. Dans un cas, la focale est large, publique, juridique, historique, dans l'autre, elle est plus intime et littéraire. Vers 15h50, comme chaque lundi, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. Il nous parle imprimante 3D, armes à feu et Las Vegas parano. En fin d'émission, enfin, on joue au grand jeu des pages musicales grâce à vos trouvailles de lecture. C'est grâce à vous tous les jours qu'on se quitte en musique. Voilà, vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour Martine Van Vorkens.
Bonjour Marie.
Vous avez publié votre premier roman cette rentrée littéraire 2023 qui s'appelle Les Faiseurs d'Anges chez Sabine Vespizard Éditeur. Votre narratrice Jeanne sonde les traces qu'un avortement clandestin a laissées dans son corps, dans sa tête, dans ses combats, dans ses relations avec les autres de manière générale. Bienvenue à vous dans le Book Club. Jeanne, cette narratrice, est une grande lectrice. Elle lit beaucoup le Mahabharata. Elle partage cet amour de la lecture. Et puis ensuite, dans ses amours, la lecture s'infiltre aussi avec Stendhal, avec Rimbaud, avec Breton. Et ici, tout commence par un questionnaire de lecture pour savoir d'abord qui sont nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire ?
J'ai beaucoup réfléchi à cette question en écoutant votre émission et en fait, je ne sais pas. Malheureusement, j'ai oublié ce moment magique qui consiste effectivement à découvrir qu'on sait lire. En revanche, ce que je sais, c'est un reproche que ma mère m'a beaucoup fait. Quand j'étais gamine, 3 ans, je pense, ou quelque chose comme ça, j'adorais le dictionnaire. Et donc, je passais des heures à ouvrir le dictionnaire, à pointer les images, les mots, en disant « qu'est-ce que c'est ça ?» Et voilà, je fatiguais beaucoup ma mère avec cette question. Donc, je ne savais pas lire, mais j'avais très envie de lire, apparemment.
Oui, avec des questions sur les mots, puisque qu'est-ce que c'est ça ? C'est bien se rendre compte que c'est un drôle de truc, ces choses-là qui sont renfermées dans le dictionnaire. Exactement. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un grand dictionnaire qui s'ouvre et qui se ferme comme ça entre une mère et sa fille dans le livre que vous avez écrit. Alors, peut-être que vous n'avez pas ce premier moment d'apprentissage de la lecture, mais est-ce que vous avez des premières images de vous, enfant, en train de lire ?
Pas du tout. Absolument pas.
Est-ce que ça veut dire que vous ne lisiez pas ?
Si, je devais lire, mais je crois que je préférais écouter les histoires. Donc j'ai des souvenirs de gens qui me racontent des histoires, ma mère, ma grand-mère, etc. Mais moi, lisant, non, curieusement, ça a disparu, alors que la lecture est une activité vraiment pas essentielle, mais quasiment dans ma vie, donc c'est très bizarre.
Non, mais tous les enfants ne lisent pas. Moi, j'ai pas vraiment de souvenirs de moi lisant seule, si ça peut vous rassurer.
Ah oui, mais quand j'ai commencé à prendre plaisir à lire, quel est mon premier livre ? Je ne sais pas du tout. Pas du tout, du tout.
De quoi étaient faites ces histoires qu'on vous racontait ?
Ah bah écoutez, mon histoire préférée quand j'étais gamine, c'était quand j'étais vraiment petite fille, c'était La Chèvre de Monsieur Seguin, que j'écoutais avec crainte et tremblement et ravissement, donc je pleurais toujours bien sûr, mais j'adorais cette histoire.
Pour quelle raison ?
Eh bien écoutez, cette chèvre qui choisit la liberté, quand même, malgré tous les risques, je crois que j'étais fascinée par cette chèvre et que c'est un modèle dans ma vie.
Si on avance un petit peu dans votre parcours de lectrice et qu'on vous retrouve alors enfin avec un livre à la main, il faut attendre quel souvenir de lecture ? Ou quel âge ?
Oh là là, très tard.
Jeune fille, jeune femme ?
Enfin, non. Peut-être. Vraiment, mes souvenirs de lecture, c'est quand je suis interne, bizarrement. Dans cette communauté de femmes, de filles à l'époque, puisque voilà, les lycées, les collèges, tout ça, c'était pas mixte. Donc, cette communauté de filles, on lisait énormément. On se passait les livres, on commentait les livres, on discutait des livres. Voilà, mes grands souvenirs de lecture, en fait, c'est un...
Voilà. Et c'est des livres qui appartenaient à l'internat, il y avait une bibliothèque, ou c'était des choses qui circulaient de famille en famille et que vous les preniez lorsque vous retourniez, j'imagine, de temps en temps dans les familles. Comment ça se passait, la circulation des livres ?
Je ne sais pas très bien, ça circulait beaucoup. Vous savez, c'était l'époque du livre de poche. Mm-hmm. Ça commençait à exister, ou ça existait depuis un petit moment, j'en sais rien. Donc les livres n'étaient pas très chers, donc je pense qu'on les acquérait. Et ensuite, on se les refilait, on se les passait, on se les prêtait, on les commentait. Et voilà, c'était ça la lecture. Une lecture partagée, en fait, curieusement, pas une lecture solitaire. Alors que Dieu sait si je pratique la lecture solitaire
depuis. À quel moment est-ce qu'elle le devient justement plus solitaire, plus à vous, peut-être dans un chemin qui vous est plus singulier?
Peut-être quand je suis en seconde, en première.
Ah oui, c'est assez tôt finalement.
Oui, oui, bon, enfin, quand même.
Et alors c'est quoi?
Ah, la poésie. À l'époque, j'étais vraiment très folle de poésie. Baudelaire, Rimbaud, Prévert, voilà, Apollinaire, essentiellement.
Ça vous est resté? La fréquentation de la poésie?
Oui, toujours. Enfin, moins quand même, mais toujours, oui. C'est quand même mes... Comment dire? C'est mon puits. C'est là où sont toutes les ressources, je pense.
Même si ce n'est pas aujourd'hui le sujet de notre rencontre, il y a tout un pan de votre vie qui est consacré à la recherche, aux sciences qu'on dit des sciences humaines. Est-ce que votre vie de lectrice change par ce biais-là, par ce parcours-là, Martine Van Donkert?
Bien sûr, le métier que j'ai choisi, qui était vraiment un métier de lié à ma curiosité pour l'altérité, puisque voilà, j'ai eu la chance d'être missionnée, je suis allée en Inde plusieurs fois. Bien sûr, tout à coup, c'était des lectures. J'ai abandonné, pas vraiment, parce qu'il y a une littérature extraordinaire en Inde. Bien sûr, il y a des romanciers indiens et des romancières indiennes tout à fait fabuleuses, fabuleux et fabuleuses. Mais j'ai abandonné quand même en grande partie cette activité qui consiste à lire des fictions. Et j'ai été une élève obéissante, je me suis mise à lire les sciences humaines et j'ai adoré ça. Et maintenant, j'aime plus du tout ça.
Vous êtes revenue à quoi alors? À vos premiers amours de la poésie ou au roman?
Au roman, à la poésie, enfin, tout ce qu'on appelle la littérature et non pas les littératures.
Et aujourd'hui, vous êtes quoi comme lectrice?
Qu'est-ce que j'aime comme livre?
Non, qu'est-ce que vous êtes comme lectrice? Comment est-ce que vous parleriez de vous en tant que femme qui lit? Vous êtes plutôt quelqu'un qui lit beaucoup, lit au hasard.
Ah, dans ce sens-là.
Qui relit.
Ah non, non, je lis beaucoup, je relis beaucoup, et avec une avidité qui me met parfois en colère, parce que cette avidité, finalement, fait que les choses s'effacent trop vite. Donc je relis, et je re-relis, pour me souvenir.
Est-ce que vous cherchez quelque chose dans les livres?
Oui, bien sûr, la vérité. Quelque chose de l'ordre de la vérité. Oui. Oui, mais de la vérité.
Mais vous la trouvez jamais, j'espère.
Vérité de quoi, etc.
Oui, voilà. Mais
oui, je cherche un diamant, quelque chose de très précieux qui m'attend quelque part. Et que je trouve d'ailleurs.
C'est vrai, parce que parfois il y a une question dans ce questionnaire qui se demande: est-ce que nos invités ont un rendez-vous avec des œuvres? Est-ce qu'il y a des livres qui les attendent? Est-ce qu'ils ont comme ça dans l'idée que, peut-être pas tout de suite, mais qu'un jour ils ou elles liront ce livre-là ou cette œuvre-là?
Non, pas du tout. Non, non, j'ai pas de projet. Enfin, j'ai pas de projet, je ne me projette pas dans ce genre de choses, plutôt.
On a Ariane Ascaride au téléphone. Bonjour Ariane Ascaride.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans le Book Club. Je le disais, on avait très...
Merci beaucoup de m'accepter avec mon téléphone.
On vous accepte avec votre téléphone. Venez comme vous êtes. On dit ça, le slogan, c'est ça. Voilà, ça fait plusieurs mois maintenant que vous êtes en tournée avec le spectacle Gisèle Halimi, Farouche Liberté. Vous y incarnez l'avocate avec fougue, précision, émotion. J'ai eu la chance de voir ça il y a quelques mois sur la scène de la Scala à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission, mais ici, tout commence toujours par un questionnaire de lecture. Gisèle Halimi, voilà, évoque, elle, son rapport aux mots, très singulier d'ailleurs, rapport aux mots importants dès son plus jeune âge. Est-ce que vous vous souvenez, vous, quand est-ce que vous avez appris à lire?
Comme à l'école, vous voulez dire?
Oui, bah, à l'école ou ailleurs, mais enfin.
J'ai appris à lire au CP et j'en ai un souvenir très fort parce que j'ai eu un sentiment de puissance à partir du moment où, quand je marchais dans la rue, je pouvais lire pharmacie, boulangerie, boucherie. Ça, c'était vraiment un immense sentiment de puissance. C'est ça mon premier rapport à la lecture, si vous voulez. C'était que avant, comme moi j'avais des frères beaucoup plus grands que moi, je les voyais lire et moi je ne pouvais que regarder des images. Ou moi je me racontais des histoires par rapport à ces images. Mais là d'un coup je pouvais lire en dessous les images.
Il y a quelque chose du déchiffrement du monde qui vous a attrapé.
Je pense que je suis tout à fait comme tout le monde, quoi. Je pense que le fait de savoir lire est une liberté et un immense pouvoir.
Est-ce que vous avez été une enfant lectrice?
Ah oui, moi j'étais une enfant très lectrice puisque je m'enfermais dans un placard pour lire.
Ah oui.
Pour vous dire.
Parce que vous vous cachiez ?
Je me cachais du monde, je me protégeais du monde, je crois plus que de me cacher, je me protégeais du monde et c'était un très grand placard en hauteur dans lequel je montais avec une échelle. C'était un placard où il y avait de la lumière et je m'enfermais dans ce placard et il y avait beaucoup de livres, des livres de tout et de n'importe quoi. Et je lisais dans le placard. Alors au début j'ai lu, il y avait beaucoup de vieux albums, des choses comme ça, d'un hebdomadaire qui s'appelait Vaillant, et je lisais Vaillant, et puis après je suis montée avec mes livres, je lisais dans le placard avec mes livres.
Oui, c'était un placard cabane de lectrice. Est-ce que vous vous souvenez si votre vie de lectrice a pris un ou plusieurs virages ? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes mis à découvrir des champs entiers de la littérature, de la poésie, du théâtre ?
Alors la poésie, c'était bon. Alors la poésie, en fait, je l'ai abordée quand je suis rentrée au Conservatoire de Marseille, parce qu'on devait apprendre des poésies, j'ai jamais été très branchée sur la poésie. C'est un grand défaut, parce que chaque fois que je lis un poème, je me dis, oh là là, il faut que je me mette à lire de la poésie. Des fois, je lis des poèmes pour le boulot ou des machins comme ça, et je me dis, c'est tellement beau, quoi. Mais il y a un poète qui m'accompagne pas mal, c'est Baudelaire. Oui, là, Baudelaire, j'avoue que j'ai un grand faible pour Baudelaire. Mais sinon, je lisais, j'ai beaucoup lu, la littérature du 19e siècle. D'abord Georges Sand, et puis Balzac, et puis Stendhal, et puis Flaubert, et puis voilà.
Et ça, c'est plutôt quoi, au début de votre âge adulte, à la fin de votre adolescence ?
Pendant mon adolescence, ça a commencé un peu comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que, comme j'avais ces frères qui étaient plus grands, il y avait des livres de poche, il y avait beaucoup de livres de poche chez nous. Et donc, par exemple, à 12 ans, j'ai lu Sartre. Parce que c'était les livres de mes frères et donc je lisais Sartre. Je pense pas que j'ai tout compris, c'était quand même pas mal. Et après j'ai relu plus tard Les Mots et c'est un bouquin que j'aime beaucoup beaucoup. Et en fait c'était complètement anarchique. Je lisais tout et n'importe quoi. Tout ce qui me tombait sous la main, et à 13 ans, il m'est tombé Anne Frank, le journal d'Anne Frank, ça a été un moment très, très, très important pour moi. Et à partir de là, je lis encore beaucoup, beaucoup de littérature qui ont à voir avec la Shoah, avec l'Holocauste, avec des choses comme ça. Oui, ça, c'est vrai que c'est venu à ce moment-là. En fait, je n'ai pas de. En même temps, je lisais Mark Twain ou je lisais Dickens parce que, pas quand j'étais jeune ado, les histoires de David Copperfield, j'avais l'impression que c'était moi.
Et c'est encore le cas aujourd'hui. Vous avez ce rapport-là à la lecture anarchique. Vous suivez vos envies. Il n'y a pas de.
Oui, je suis absolument mes envies. Là, vous voyez, je suis en train de lire. Mais bon, c'est un auteur que je suis beaucoup, que je lis depuis longtemps, qui est Joyce Carol Oates. Et voilà, là, pendant que je vous parle, il y a le livre de Joyce Carol Oates qui est juste à côté de moi, quoi.
Alors, justement, dans ce questionnaire lecture, il y a une question qui s'adresse à la table de chevet. Je demande à mes invités s'ils ont une table de chevet. Est-ce qu'il y a en ce moment sur leur table de chevet? Donc, il y a que Joyce Carol Oates ou elle est accompagnée?
Qui s'appelle Babysitter, ce bouquin-là s'appelle Babysitter. Ouais. Il y a un livre qui est tout le temps sur ma table de chevet, qui est Madame Bovary, car je le relis, je crois que ça fait 40 ans que je relis une fois par an Madame Bovary.
Et vous picorez ou vous relisez vraiment, vous faites l'expérience ?
Je relis Madame Bovary. Je relis Madame Bovary.
Et vous y trouvez quoi ou vous y cherchez quoi ?
J'y cherche rien, vous savez, moi quand je lis, je cherche rien. Je lis, je suis comme une exploratrice de la pensée de celle ou de celui qui a écrit. Je m'émerveille, je m'étonne, je me questionne. Je me dis mais comment elle ou il a fait pour écrire des choses que je ressens si fortement, quoi. Qu'il arrive lui à les expliquer ou elle arrive à les expliquer. Je voyez. Triste tigre, je lis ça, je me dis mais bon Dieu, mais c'est incroyable quoi, parce que c'est d'une force et ça vous explique véritablement qu'est-ce que c'est que l'acte du viol. Et voilà, je cherche rien. J'ai du
Mais parfois, vous trouvez. Tout à l'heure, on entendait Martine Van Vorkens parler du rapport qu'elle avait avec les mots lorsqu'elle était enfant, en feuilletant des dictionnaires et en demandant à sa mère « c'est quoi ça ?» en pointant du doigt les mots. Et en l'écoutant dire ça, j'ai pensé à ce que raconte Gisèle Halimi de son propre rapport à elle, aux mots quand elle est enfant et plus tard, la manière dont elle est certaine que la maîtrise du mot, la maîtrise du vocabulaire, la manière de s'en emparer, la possibilité d'investir le mot à la fois d'un sens...
D'abord, je pense que c'est fondamental, d'abord quand on est avocate, comme elle dit d'ailleurs, de savoir manier le mot, la langue, et en l'occurrence la langue française. Et comme elle dit au départ, le français pour elle était un mode d'expression total, extraordinaire. Elle avait l'impression que ça l'emmenait ailleurs, et de fait, c'est ce que ça faisait. Ça lui permettait d'accéder à de grands textes, à de grandes conversations, à de grands lieux, à de grandes écoles. Et elle le faisait aussi...
comme un phénomène d'émancipation.
Totalement, comme un phénomène d'émancipation, puisque chez elle, ses parents, ils parlaient un judéo-arabe, un patois spécifique à la Tunisie. Et donc, c'est pour dire, à un moment donné, pour se singulariser, pour dire, moi, non, je vais parler français. Et quand on l'écoute parler français, quand on l'écoute parler, quand on entend des émissions à la radio ou des choses à la télévision, elle a un langage absolument magnifique et toujours très calme.
Mais néanmoins habité. On va continuer à parler des mots de Gisèle Halimi avec vous, Ariane Ascaride au bout du fil, et avec vous, Martine Van Vorkens, parce que je le disais, les mots de Gisèle Halimi, l'importance du procès de Bobigny de 1972 apparaît dans le parcours de Jeanne, la narratrice de ce premier roman, Les Faiseurs d'Anges. On va le faire juste après cette chanson, et ce qui est magique avec les chansons, c'est qu'elles peuvent souvent se chanter et s'entendre avec des tas de nuances et de significations différentes. Par exemple, il y a une chanson sur le dernier album de Juliette Armanet que moi j'ai toujours entendu comme un hymne pro-IVG, alors que certainement pas du tout. C'est peut-être tout simplement une chanson d'amour et d'émancipation et de vitesse et de mouvement. Mais moi j'ai toujours visualisé une femme comme ça qui marche très vite, qui décide d'avorter sans larmes pour sauver sa vie.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Accepter que nous soyons à ce point alignés, accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter, messieurs, que nous soyons de véritables boîtes, des réceptacles dans lesquels on sème par surprise, par erreur, par ignorance, dans lesquels on sème un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction sans que nous ayons un mot à dire. L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence, la liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi messieurs, personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. Ce sont les presque derniers mots de la fameuse plaidoirie de Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny en 1972, alors que Marie-Claire Chevalier et sa mère est jugée pour avortement clandestin après que Marie-Claire est tombée enceinte d'un viol. Dans votre premier roman, Martine Van Vorkens, la narratrice Jeanne souligne l'importance de ce procès dans sa vie de jeune femme, de femme, elle qui a aussi subi un avortement clandestin. Ces mots nourrissent sa réflexion, ses discussions, son combat, son engagement, mais aussi son chemin, ses échanges avec d'autres femmes et parfois ses amours avec d'autres hommes. Dans la pièce Une farouche liberté, vous portez la voix de l'avocate Gisèle Halimi, Ariane Ascaride, faisant vivre sa vie et son parcours dans des dimensions intimes et dans des dimensions éminemment politiques et publiques, ce qu'elle avait de toute façon un art de mêler parfaitement. Alors, Les Faiseurs d'Anges est votre premier roman, Martine Van Vorkens. Vous êtes une primo-romancière de la rentrée littéraire, pas tout à fait toute jeune. Est-ce que vous pouvez nous raconter le chemin, puisqu'il est question de chemin pour cette narratrice Jeanne, le chemin qui vous a mené jusqu'à ce livre-là?
Le chemin qui a mené Jeanne jusque ce
livre-là? Non, le vôtre.
Ah, mon chemin. Ah, mon chemin, écoutez, c'était une décision très claire de rompre avec les sciences humaines et sociales. Et puis, il y a quelques temps, je me suis beaucoup intéressée au combat des femmes en Inde. Enfin, ça a été vraiment mon grand souci pendant plusieurs années. Et puis ensuite, bien évidemment, parallèlement au combat des femmes en France, en Europe, etc. Et puis le mien, personnellement, évidemment. Je fais partie de cette génération qui a traversé cette période où l'IGV n'était pas autorisé. Et donc, il m'a semblé, en tous les cas, que, mais sans doute ma fascination pour l'écriture romanesque et les romans en général ont fait que j'ai décidé de quitter l'écriture soi-disant distanciée et objective des sciences humaines pour une écriture plus personnelle et donc incarnée à travers des personnages, en fait, l'histoire des vies et l'histoire avec un grand H, puisque effectivement, à la mi-temps du bouquin, de mon petit bouquin, il y a ce procès qui est conduit donc par Gisèle Halimi pour Marie-Claire Chevalier, pour défendre Marie-Claire Chevalier. Et je peux ajouter que ce chapitre m'a été inspiré par une pièce de théâtre que j'ai vue au théâtre du Vieux Colombier, une pièce de théâtre qui s'appelle Hors la loi. Et je crois que la metteuse en scène et l'écrivaine, c'est Marie-Paul Bureau.
Pauline
Bureau. Ouais. Voilà, Pauline Bureau.
Ouais, elle et cette pièce,
vous l'avez vue apparemment.
Ouais.
Bon voilà, cette pièce m'a marquée.
Il était aussi question de toutes les archives de ce procès Bobigny. Et ouais. Il en était fait quelque chose de tout à fait différent de la pièce dont on va parler avec Ariane Ascaride. Mais ouais. En effet, peut-être ce qui est intéressant, si vous dites que ce chapitre vous a été inspiré par cette pièce,
tout
c'est
à
de
fait.
Voir comment est-ce que 50 ans après, ces épisodes en effet très importants de l'histoire, notamment de l'histoire juridique et de l'histoire du combat féministe en France, viennent créer des échos. Mais je reviens à ce que vous dites de faire un virage vers l'écriture littéraire et l'écriture incarnée. La question du corps de votre personnage est très importante dans votre roman. Qu'est-ce que ça change fondamentalement, puisque vous passez d'une écriture à l'autre, puisque vous vous jetez dans le grand bain d'une autre forme d'écriture?
Écoutez, c'est vraiment un saut dans une sorte de précipice. C'est assez vertigineux, mais on se prend au jeu. C'est très compliqué à expliquer. En tous les cas, C'est vrai que quand je parle d'incarnation, c'est particulièrement vrai dans ce livre, puisqu'il commence justement par une séance d'examen gynécologique. Donc cette femme qui est sur une table comme ça d'examen, qui a d'ailleurs repoussé pas mal de mes lecteurs masculins, parce que ce corps exposé, ouvert, grand ouvert, malmené quand même.
Objectivé, on parle d'elle,
on parle d'elle, elle n'existe pas. Et puis l'histoire des codes vestimentaires, elle arrive toute nue, on l'engueule parce qu'il faut qu'elle s'habille, ensuite on la déshabille, enfin, etc., etc. Cette espèce de elle est secouée comme, vraiment comme un grain de poussière dans une boîte. Et, oui, je pense que ce livre a commencé en tous les cas avec cette scène pour moi. Et donc l'incarnation était vraiment très forte. Donc c'était un point de départ formidable.
Oui, parce que je disais, pour essayer comme ça d'attraper le livre en une seule phrase, que ce sont beaucoup les échos, les traces laissées par un acte important qui est cet avortement douloureux et violent qu'elle subit. Mais finalement, c'est aussi l'histoire d'un corps, c'est-à-dire que vous écrivez la manière dont cette femme dialogue avec son corps, voit par le corps un système patriarcal, un système médical, mais aussi parfois un système amoureux ou un système amical. C'est comme si le corps était l'instrument de mesure, l'instrument de lecture du monde pour cette Jeanne.
Écoutez, je suis très heureuse de ce que vous me dites. Je ne pensais pas avoir si bien réussi à mettre le corps en avant comme ça et avoir fait du corps...
Est-ce que c'était l'idée ?
Un corps parlant. Ben, oui, en partie, mais pas, peut-être pas aussi abouti que ce que vous semblez dire. Et, non, c'est très très important et je suis très, très heureuse de ce que vous me dites. Oui, bien sûr. Les femmes sont un corps. Avant tout, je pense. Enfin, avant tout, je vais me faire taper sur les doigts par les féministes. Mais enfin, je pense qu'on est avec un sexe. Évidemment, on peut en changer, etc. Mais quand même, cette naissance et ce signe distinctif n'est pas rien. Et ensuite, on est embarqué, si vous voulez, dans des mondes qui sont éminemment sexués et où le pouvoir se divise selon le, enfin, se divise et se répartit selon le sexe que l'on a. Voilà.
Malheureusement, pourrait-on rajouter.
Malheureusement.
On va écouter une archive d'Annie Ernaux en 2014. Elle évoque ces deux moments d'écriture, à la fois les armoires vides et l'événement, deux moments où elle aborde par la littérature l'avortement qu'elle a subi.
Dans les armoires vides, quand je l'écris, nous sommes dans les années 70. La loi Veil n'est pas passée. On est dans la lutte à ce moment-là. Et pour moi, c'est le cadre de mon livre, c'est le cadre militant de mon livre. De mon roman, parce que c'est un roman. Et là, quand en 99, j'écris l'événement, je reviens sur mon avortement, c'est tout à fait autre chose. C'est à la fois, c'est un exercice de mémoire de l'événement. C'est aussi d'écrire à cette époque-là sur quelque chose qui appartient à l'histoire des femmes, mais qui est déjà en passe d'être oublié. Qui m'oblige presque à écrire ce texte. Tout ce qui concerne l'histoire des femmes s'oublie. Et tout ce qui concerne les femmes est toujours sujet, voilà, il y a des retours en arrière toujours possibles. Et cette sensation-là et cette certitude-là fait que je suis toujours dans cette idée-là. Que les femmes sont soumises d'une manière générale, même dans la mémoire, à l'hégémonie masculine. Et dans la littérature aussi d'ailleurs.
Fin novembre. Depuis 24 heures, Jeanne garde le lit dans la grande chambre qu'elle loue avec son amie musicienne. Elle a commencé à saigner, à avoir très mal au ventre. La première nuit, il dort près d'elle. Une nuit hirsute, avec fièvre, sueur, grelottement, trous noirs, brèves insomnies. Quand elle se réveille, le lit est vide. Deux jours ont passé. Le filet de sang est un peu plus gluant, un peu plus épais. Quand elle se lève pour aller aux toilettes, elle veille à ne pas faire de bruit. Elle grelotte. Sa chemise de nuit dépasse du manteau dont elle s'est revêtue. Elle aperçoit l'horlogeuse quand elle marche sur la pointe des pieds, devant sa porte toujours ouverte. Éclairée par une grosse ampoule, celle-ci lui tourne le dos, penchée sur sa table. Perles, sequins, mouches, fils d'or et d'argent, patrons sont éparpillés autour d'elle. il fait humide et glacial. Ni le couloir, ni la salle de bain ne sont chauffés, son atelier non plus. C'est dans ce froid qu'elle agence, coud, brode, incruste, col, poignet, encolure, bordure de robe. Dans la nuit, il est revenu. Ils ont dormi l'un contre l'autre. À son réveil, il a disparu. Elle traverse en alternance des pics de violence et des moments d'accalmie. La chambre lui semble alors plongée, comme elle, dans un demi-sommeil. Une chambre paisible, comme mise sous cloche. La nuit, les contractions se déclarent. Il dort, par terre, au pied du lit. Le matin du quatrième jour, inondé de sueur, claquant des dents, saignant plus encore que la veille, Jeanne est si faible qu'elle a besoin de l'aide de son amie pour aller jusqu'à la salle de bain. Elle marche comme deux petites vieilles, à tout petits pas, dans ce couloir de glace. 4 jours, c'est très rapide pour devenir si faible.
Un extrait de votre roman « Les faiseurs d'anges », Martine Van Vorken, c'est juste avant une archive de 2014 où on entendait Annie Ernaux parler de la dimension de mémoire qu'il y a dans l'écriture d'expérience de corps de femme, voilà, pour essayer de le dire le plus largement possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête ? Est-ce qu'écrire ces pages-là, c'est aussi les écrire pour l'histoire ? C'est aussi les écrire pour la trace ?
Oui, en partie, bien sûr. Mon féminisme, en tous les cas, était présent dans ce projet de livre. L'avortement semble être une vieille histoire, une histoire réglée, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Vous avez fait allusion au fait, que, tout à l'heure, effectivement, qu'il existe encore des pays, beaucoup de pays, en Europe même, où il est interdit. Ne parlons pas des États-Unis, de Trump, etc. Les derniers développements. Donc tout ça est d'une fragilité totale et on a l'impression que c'est réglé alors que ça ne l'est pas. Et je pense fondamentalement que pour les femmes, c'est un droit, c'est un droit qu'il ne faut jamais, jamais leur ôter. Enfin, c'est inimaginable même, si vous voulez, qu'il leur ait été accordé si tard. Quand on pense aux années, aux siècles comme ça d'avortements épouvantables qu'elles ont subis, et les archives en sont pleines. C'est une histoire terrifiante, oui. Sanglante et terrifiante.
Ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a ce que peut la littérature ou ce qu'en fait la littérature. Et la question, c'est précisément comment écrire, pourquoi l'écrire, comment ça tient sur une page. Là, on l'entend. Je parlais tout à l'heure de l'importance du corps dans ce texte-là. Comment ça s'agence? C'est-à-dire que c'est pas un texte, c'est pas un manifeste que vous avez écrit.
Non.
C'est un texte de littérature. Alors, comment justement l'idée qu'il faut garder trace de ces histoires, de ces vécus corporels, trouve ensuite à s'écrire?
Eh bien oui, c'est vraiment... effectivement, je me suis trop étendue, peut-être, si vous voulez, sur l'aspect combatif et historique de l'avortement.
C'est présent dans votre texte, puisqu'il y a aussi des discussions politiques,
en oubliant effectivement que c'est
militantes.
Mais cette incarnation, si vous voulez, elle est justement cet endroit où tout converge, finalement. C'est un corps à travers lequel tout ça passe. Et quand je parle d'incarner des idées, une histoire, etc., oui... Oui, c'est un corps, mais c'est un corps effectivement qui est fait de tout ça.
Oui, qui est agité par la politique quand elle se rend à la Salpêtrière. Eh bien, c'est aussi toute l'histoire de cette grande institution de la Salpêtrière où étaient enfermées des femmes sous prétexte de folie ou d'hystérie,
bien sûr,
etc.
Une histoire
qui la traverse et qui l'agite. Quand ensuite, un petit peu plus tard dans votre roman, eh bien, une histoire d'amour avec un certain homme où peuvent se rejouer des histoires de violence anciennes, rapatrie là d'un seul coup la guerre d'Algérie. Enfin, c'est une femme au milieu d'histoire.
Complètement au milieu d'histoire. Et si la deuxième partie du roman est consacrée à une idylle qui se termine très très... Enfin, qui... Oui. Entre un Algérien et Jeanne, le personnage de ce roman, c'est parce que le fait qu'il soit algérien n'est pas un hasard. Bien sûr, l'Algérie est présente dès les premières pages. Quand elle est gamine, cette Jeanne, elle joue avec un gamin un peu plus âgé qu'elle qui va mourir à la guerre d'Algérie. Elle ira à son enterrement. Et effectivement, ça l'a beaucoup marquée. Et puis, il y a ce qu'on appelait les événements d'Algérie. Mais enfin, la France était complètement suspendue à toute cette histoire.
Et était meurtrie de la même manière sur son sol avec des attentats et des violences.
Absolument, absolument. Donc l'Algérie est présente. Donc pour moi, c'était important. De nouveau, Reda, si vous voulez, c'est l'incarnation. Enfin, c'est une incarnation, en tous les cas, de cette histoire terrible entre l'Algérie et la France.
C'est d'ailleurs assez saisissant, en décidant de vous faire dialoguer aujourd'hui avec Ariane Ascaride, qui porte les mots et la vie de Gisèle Halimi sur scène, de voir comment le combat féministe et l'avancée pour les droits des femmes jouxtent comme ça un combat qui va être pour la décolonisation, contre la torture, contre une violence raciste. Et il y a quelque chose qui se rejoint dans ces élans politiques, dans ces élans d'engagement. Au Book Club, il y a des lecteurs, des lectrices, des auditeurs, des auditrices qui nous envoient des questions. Marie a lu votre livre et elle vous adresse des questions, Martine Van Workens.
Bonjour le Book Club, bonjour Martine Van Workens. Lorsque j'ai lu votre ouvrage, j'étais frappée dès les premières pages par votre écriture à la fois, je dirais, ironique et incisive, qui montre la vérité sans phare sur ce qu'ont subi les femmes durant cette époque, et notamment, je pense, au tout début du roman où Jeanne a été complètement dépossédée de son corps lors d'un examen gynécologique fait par un médecin particulièrement autoritaire et patriarcal. Et j'aurais aimé, de ce fait, savoir si vous avez bénéficié de témoignages à la fois écrits ou oraux de militantes pour le droit à l'avortement ou tout simplement des femmes ayant soit pratiqué ou subi des avortements clandestins. Je vous remercie pour ce livre qui non seulement raconte ce qu'ont subi les femmes mais aussi comment les femmes ont résisté.
Merci beaucoup à vous Marie pour cette question. Je vous l'adresse, Martine Van Workens. Est-ce que vous avez élargi? Est-ce que vous avez prêté l'oreille? Est-ce que vous avez fait de cette Jeanne un réceptacle en fait de vécu plus collectif?
Bien sûr, et vu mon grand âge, je suis quand même de la génération de cette Jeanne, à peu près. Et donc, ma vie a été traversée par cette grande affaire de l'avortement et les collectifs de femmes, de discussions, etc. Et bien évidemment, les enquêtes orales, et bien évidemment, les lectures. Enfin oui, cette Jeanne ne sort pas de rien, décidément. Elle est nourrie de tout cela et entre autres, le personnage qui s'appelle Krishna dans mon bouquin, qui est en fait cet enfant dont elle a avorté et qui figure comme un revenant, vient aussi de lecture. Là, je ne l'ai pas inventé moi-même, mais ça vient de lecture. Annie Ernaux, Nancy Houston, Schneck, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Colombe Schneck.
Enfin, toutes ces femmes qui parlent d'avortement, qui racontent des histoires d'avortement, parlent aussi de cet enfant dont elles ont avorté et dont elles se souviennent, et qui n'est pas... Colombe Schneck a un mot très frappant, elle parle non pas d'un mort, mais elle parle d'un absent. Donc de quelqu'un qui peut revenir, qui n'est pas là, mais qui peut revenir.
Ce qui fait aussi le lien, et c'est assez intéressant et subtil, avec tout l'univers des contes et des textes plus orientaux dans lesquels est plongée Jeanne, où la question des revenants, des fantômes, vit d'une autre façon. Martine Van Workens. Alors on est au téléphone avec Ariane Ascaride, je le disais, qui porte sur scène d'autres mots, ceux de Gisèle Halimi, qui sont notamment inspirés de ce livre de dialogue entre Gisèle Halimi et Annick Cojan, une farouche liberté. On va se faire le plaisir d'écouter la voix de Gisèle Halimi avant d'avoir un extrait de la pièce.
Vous savez, quand on veut faire un procès de principe, un procès politique entre guillemets, il y a trois règles, je dirais. La première, c'est qu'on ne demande pas pardon. La deuxième, c'est qu'on met en accusation la loi et la société. Et la troisième, c'est qu'on réclame un changement à ces juges qu'on ne reconnaît pas comme juges, en fait. C'est ça, le vrai procès politique. C'est un énorme bouleversement dans la défense. On ne peut pas faire un procès comme celui-ci si toutes les données, mais toutes, jusqu'au plus infime, ne sont pas exemplaires. Supposez qu'on ait découvert qu'elle se droguait, ou qu'une de ses filles se prostituait, ou qu'elle avait déjà eu une petite affaire de vol dans un supermarché, enfin peu importe. Parce que le moindre détail, on était renvoyé en arrière, je dirais encore plus en arrière que le point de départ. Et c'était le cas. C'était une mère célibataire, employée de métro, trois filles qu'elle avait élevées toutes seules parce que le père s'était barré. Et donc, c'était vraiment exemplaire. Et il restait son accord, où je lui ai dit très, très franchement, très presque brutalement les choses. Là, si on revendique, alors elle m'a dit « qu'est-ce que je risque ?» Je lui ai dit « le maximum » ou « l'acquittement ». Si on a réussi à avoir avec nous l'opinion publique, à remuer tout ça, mais enfin, ce n'était pas donné hein, au départ, l'acquittement. Mais sinon, le maximum, parce que ce n'est pas le genre d'attitude qui plaît au juge. Elle a dit d'accord, il faut que ça change.
J'ai attendu le verdict avec angoisse. Je retrouvais les sensations ressenties lors des grands procès politiques lorsque la peine de mort était réclamée contre l'un de mes clients. Et nous avons gagné ! Le verdict a fait exploser. La loi 1920 et la médiatisation du procès a rompu le tabou de l'avortement. Fini ! Le pacte du silence. Des femmes nous écrivaient de partout pour nous féliciter, pour nous remercier, pour adhérer. Les adhésions à choisir ont explosé. C'était flamboyant. Il y avait quelque chose de jubilatoire à se retrouver entre femmes et à parler en toute liberté, même conditions, même lutte, même langage.
Un extrait de la pièce Gisèle Halimi, une farouche liberté, avec vous, Ariane Ascaride et Philippine Bière-Brossolette, dans une mise en scène de Léna Poga, mais juste avant la voix de Gisèle Halimi, dans les entretiens à voix nue, diffusés sur France Culture en 2011. Vous avez retraversé à la fois ces entretiens qu'elle accorde à Annick Cojan, et j'imagine toutes les mémoires, tous les écrits de Gisèle Halimi. Quel genre d'expérience ça constitue pour vous, en tant que comédienne, Ariane Ascaride ?
De faire ce spectacle-là ?
Oui, et puis de retraverser toute cette histoire.
Comment je pourrais vous dire ça ? Vous savez, il y a des fois, des moments, vous faites des spectacles où vous êtes en accord parfait. Ce que j'appelle l'accord parfait. C'est assez rare, l'accord parfait. Là, on y est. Parce que ce qu'on dit, c'est-à-dire ce que disait Gisèle Halimi, à nous, ça nous rassérénère parce que on a besoin de le dire, mais ce qui se passe, c'est que les gens en face, eh ben, ils sont dans le même état que nous. Et qui fait que c'est assez rare dans la vie d'une actrice que tous les soirs, il y a toute une salle qui est debout. Mmh. Et c'est pas parce qu'on est génial, c'est parce que ce qu'on dit est essentiel et que les gens ont besoin de l'entendre et on le découvre d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui découvre Gisèle Halimi. C'est ça qui est dingue, parce que il y a eu un moment où Gisèle Halimi, plus personne ne savait qui elle était. Et là, d'un coup, vous vous dites, ah mon Dieu, je suis vraiment en train de faire mon boulot, quoi.
Mais qui est aussi un boulot de transmission, vous diriez, c'est-à-dire
mais
que...
Mais la transmission est indispensable, complètement indispensable. Vous transmettez du Tchekhov, vous transmettez du Shakespeare, et un soir, vous transmettez du Gisèle Halimi, et qui est, c'est tellement, tellement important, quoi.
Non, ce que j'allais dire, c'est que ce qui est aussi très important, c'est combien est-ce que la vie de cette femme qui est comme ça balayée sur scène et interprétée à des âges différents, on le disait tout à l'heure, c'est tout un 20e siècle. C'est-à-dire que c'est à la fois l'histoire de la colonisation, c'est à la fois l'émancipation d'une petite fille, d'une jeune fille depuis sa famille, c'est le combat pour le droit à l'avortement, c'est aussi un combat acharné contre le viol, pour la pénalisation du viol, c'est l'idée d'un collectif féministe féministe de plus en plus large, de plus en plus combative. C'est aussi, moi, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est de voir comment est-ce qu'elle monte un procès politique, comment est-ce qu'elle organise l'idée qu'il va y avoir un impact et que ça aura un impact sur la loi, la transformation de la loi. C'est très large, d'une certaine manière.
Mais oui, c'est très large, parce qu'elle dit que si vous vous battez pour quelque chose pour les femmes, particulièrement pour les femmes, si vous continuez à vous battre pour ça, et si on arrive à mettre en place ça, vous allez voir que toute la société va changer. Et c'est ça qui est important. Parce que le fait que vous vous battiez pour les reconnaissances du droit de l'IVG pour les femmes fait que d'un coup, les femmes vont avoir une place à l'intérieur de la société qui va bouger, qui ne va plus être la même. Puisqu'elles vont décider de leur corps. Donc si vous décidez de votre corps, vous trouvez d'un coup une indépendance par rapport aux hommes. Et si vous trouvez cette indépendance par rapport aux hommes, ça va changer le rapport de pouvoir qu'ils peuvent avoir sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah, bien sûr, vous parliez de quelque chose de rassénérant. Moi, je me rappelle parfaitement, il se trouve que le soir où je suis venue, il y avait Michel Perrault et Mona Ouzouf juste devant moi, oui, des très grandes figures du féminisme et de l'histoire du féminisme en France, et de la pensée, et de l'histoire tout court. Et vous disiez qu'il y avait quelque chose comme ça d'assez galvanisé, et c'est vrai, il y avait des personnes de toutes les générations dans cette salle à La Scala, à Paris, Ariane Ascaride, debout. Comment il faut interpréter ça ? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas...
D'abord, ce que ça veut dire, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont besoin d'entendre ça, mais que d'un coup, quand ils l'entendent, ils se disent « Ah, mais bon Dieu, c'est comme si vous savez, vous aviez envie de manger du jambon depuis des mois, et puis qu'il n'y en a pas, puis d'un coup, il y a du jambon. » C'est un peu trivial, ce que je raconte. Et d'un coup, vous dites « Ah, mais c'est vraiment très, très bon. » Et là, d'un coup, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je ne savais même pas que ça pouvait exister, parce que, par exemple, quand on dit que Marie-Claire, elle s'est retrouvée en procès parce que le gars qui l'avait violée l'a dénoncée, c'est quand même un truc de fou quand même, l'a dénoncée parce qu'elle s'est faite avorter. Dans la salle, ça fait un choc, il y a une honte qui se déplace comme ça. Et donc les gens se rendent compte que au fond, ce combat-là, il faut vraiment le mener. Parce que quand, d'un coup, vous entendez une parole qui dit « Mesdames, Mesdemoiselles, tout ce que vous pensez, vous avez raison. Vous avez le droit de disposer de votre corps. Si vous n'avez pas le droit de disposer de votre corps, vous êtes un esclave. »
Ça, c'est très fort dans les mots de Gisèle Halimi.
Et c'est une réalité, en plus. Si vous ne pouvez pas disposer de votre corps, vous n'avez qu'un corps dans votre vie, c'est à vous. Et il y a des gens qui vont décider pour vous, pour votre corps. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le roman, justement, que j'ai lu votre roman, la première scène, moi, elle m'a, mais, je sais pas comment dire, pas bouleversée, oui, bouleversée, parce que je le ressentais, parce que je pense que toute femme qui s'est retrouvée sur une table chez
un
gynécologue a à un moment donné ressenti ça. C'est pour ça que je la trouve d'une justesse inimaginable. Et en plus, elle va très loin parce que elle est là, elle est baladée, cette pauvre fille comme ça, puis il y a des étudiants qui sont là, qui regardent. Le professeur pose des questions à ses étudiants. Tout le monde s'en fout d'elle. C'est arrivé des milliers de fois, ça.
Tout à l'heure, vous disiez finalement ce qui est important, Ariane Ascaride, c'est aussi la transmission. Mais on pourrait se dire, vous parliez de Tchekhov, parfois, on vous sait aussi grande actrice au cinéma. Il y a des phénomènes de transmission qui peuvent s'opérer par plein de chemins. Là, j'ai l'impression qu'avec cette pièce, Gisèle Halimi, Une farouche liberté, le chemin est assez direct, il est assez frontal. Est-ce que vous diriez cela ?
Il est un peu, oui, beaucoup frontal, oui.
Oui, mais bon, au moins...
Parce que si vous voulez... Elle est née au bord de la Méditerranée, je suis née en face, au bord de la Méditerranée. Elle avait des frères, j'avais des frères. On me demandait de porter le café au lit à mes frères quand j'étais petite. Et pire que ça, j'en étais fière. Vous voyez, ça commence là, tout de suite. Et après, effectivement, il y a des choses dans lesquelles, dans lesquelles je me reconnais vraiment.
Mais j'espère
que... Elle est beaucoup plus forte que moi.
Mais vous êtes là, vous êtes par téléphone, mais vous êtes là. Donc le combat continue.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est, elle est, C'est une femme d'un courage inimaginable.
Absolument.
Mais inimaginable.
Et puis bon, on n'a pas le temps d'en parler en précision parce que l'heure tourne, mais il y a aussi tout ce que je racontais de l'articulation de sa vie de mère, de sa vie très intime,
oui,
de ce qu'elle veut garder, de son rapport à ses enfants et des combats qu'elle veut mener très fort.
Moi,
et...
juste quand vous faisiez le rapport aussi avec la guerre d'Algérie, vous savez ce que ça veut dire en 1956 de devenir avocate des Félagas, être une femme et être avocate des Félagas?
Personnellement, dans je ne sais France pas beaucoup,
laquelle,
mais...
Ouais. Ben non, dans la France dans laquelle c'est à ce moment-là. Mais c'est un courage de dingue. Mmh. Et effectivement, elle a reçu des menaces de mort. Elle a été emprisonnée par l'armée française. Enfin, je vous assure, c'est quelqu'un d'étonnant.
À écouter et à voir dans Gisèle Halimi, une farouche liberté avec Philippe Pierre Brosselette est mise en scène par Léna Pogan. On mettra toutes les dates de la tournée. Merci beaucoup d'avoir été par téléphone avec vous, Ariane Ascaride. Merci aussi à vous, Martine Van Vorkens. Les Faiseurs d'Anges, c'est le titre de votre roman paru chez Sabine Vespizer Éditeur. Pour celles et ceux qui voudraient discuter en vrai, ils pourront par exemple vous rencontrer à la librairie Bizet à Mulhouse ce jeudi 14 décembre à 19h. Merci à vous.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Qu'est-ce que j'apprends? Il est 15h51, c'est-à-dire j'arrive avec un tout petit peu de retard, Emmanuel Laurentin,
bonjour. C'était trop beau de vous entendre, donc d'une certaine manière, j'ai l'impression de vous déranger avec un petit polar burlesque qui n'a pas grand-chose à voir avec
alors,
toute l'importance de ce qu'était dit.
Alors, je rappelle votre job, mais non, je vous rappelle le job d'Emmanuel Laurentin le lundi, c'est de quand même suivre l'actualité de près et de piocher un livre dans sa bibliothèque, ou alors parfois de réagir comme ça à un article de presse. Cette fois-ci, c'est un article du Monde qui portait sur l'inquiétude des services de police à propos des imprimantes. C'est précis, hein, imprimante 3D qui permettrait bientôt de fabriquer des armes chez soi. Ça vous a emmené très loin, ça vous a emmené en Amérique latine, Emmanuel.
Oui Marie, mais pas pour un de ces bons thrillers qui nous font plonger dans la description hyper réaliste justement des trafics de drogue et d'armes à la façon de Don Winslow. Non, il s'agit d'un roman totalement dingue, c'est pour cela que je vous en parle. Cosmix Banditos, un roman sans queue ni tête, paru en 1992 dans une série noire que Patrick Reynal, donc très grand éditeur, voulait rénover en allant chercher des auteurs comme James Cromley, des auteurs comme assez Weisbecker, assez fou, et dont la postface disait d'ailleurs à propos de Weisbecker, on ne sait pas grand-chose de lui et il souhaite en rester là. On en sait un petit peu plus sur lui depuis, à savoir qu'il est mort, ou il serait mort, parce qu'on n'est jamais sûr de son existence, il y a 2 mois, à l'âge de 75 ans, après une vie de surfeur au Costa Rica.
Bon, moi j'adore vous suivre dans vos pérégrinations, mais c'est quoi le rapport avec l'article du Monde sur les armes à feu, Emmanuel?
Alors, Monsieur Quark, c'est son pseudonyme, est trafiquant de drogue et d'armes, caché dans la jungle colombienne pour fuir les agences des États-Unis qui le poursuivent. Il connaît tout au AK-47, contrairement à moi, au 9mm, au M16. Il possède un chien qui éternue tout le temps et un boa qui aime s'enrouler au chaud autour du canon de son arme dès qu'il a fini de l'utiliser. Il est réfugié chez des banditos dont le chef Rosset a braqué à l'aéroport une petite famille américaine modèle dans les affaires de laquelle M. Quark découvre quoi ? Des livres de physique quantique.
Voilà, tout ça est super normal, parfaitement réaliste.
Exactement, réaliste et peut-être écrit sous substance, comme le formidable Las Vegas Parano du pape du Gonzo journaliste qui était Hunter Thompson. Si réaliste d'ailleurs que notre trafiquant d'armes commence à se passionner pour la théorie des quantas, à évangéliser Rosé le Bandito, qui bien qu'analphabète commence à piger ce que le commun des mortels, c'est-à-dire vous et moi, ne comprenons pas toujours. Le pluriel d'univers que définit la mécanique des quantas affirme que les éditions différentes et simultanées de notre vie dans ce pluriel d'univers en nombre incalculable sont pour chacune d'entre elles réelles.
Moi, j'ai tout compris.
Voilà, comme dit l'auteur, les titres de ses ouvrages suffisent à ébranler intellectuellement une personne d'intelligence moyenne comme nous, car la théorie de la relativité est matière à rire comparée à la mécanique quantique et la théorie des particules subatomiques en général.
Allez, super cette chronique du lundi, Emmanuel. Tout le monde est en super forme. Bon, c'est comme un polar, il nous faut un petit peu d'action. Il y a un
alors,
peu d'action.
Alors, une action,
oui,
voilà. On a quand même. Oui, quand nos banditos entrent dans la ville désertée par les forces de police du gouvernement colombien, Riohacha, où les échanges de coups de feu, je cite l'auteur, entre les bandes de seigneurs de la dope ennemies se déroulaient fréquemment, entre autres enlèvements, viols et sévices divers liés au trafic. Le tourisme n'y connaît pas précisément un grand essor et il n'y a pas, à cette heure, de Club Med. Monsieur Quark et sa petite bande, chien et boa compris, quittent Riohacha, fort de la théorie quantique et de jets de grenades offensives sur un orchestre de Riohacha, mais ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, mais à approfondir leur connaissance. Et ça, on peut dire, on est sur France Culture, on peut dire qu'on est satisfait de ça. Ils veulent approfondir leur connaissance de la théorie des quantas. Ils vont donc braquer la bibliothèque de l'université de Barranquilla et rapportait au campement dans leur jungle des centaines de livres sur la physique ainsi que le bibliothécaire, le seigneur Rodriguez, assommé d'un exemplaire de William Shakespeare avant d'être emmené dans leur campement amazonien pour les guider dans l'inventaire de la bibliothèque susdite. C'est foutraque, mais il n'y a-t-il
non,
pas là...
Non, pas du tout.
On y croit vraiment. C'est foutraque, mais il n'y a-t-il pas là, de la part d'un auteur méconnu, surfeur à 16 heures, un espoir, celui de convertir des banditos illettrés à un trafiquant et un trafiquant d'armes en lecteur d'Einstein et de Stephen Hawking, ayant fait ce détour par Cosmic Banditos 2, A.C. Weisbecker, que je vous conseille, donc excellemment traduit par Richard Matas, publié en Folio Gallimard. Voilà qui n'empêche absolument pas tout de même de s'inquiéter de la future prolifération des armes imprimées en 3D.
You made my day, Emmanuel Laurentin. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. Merci beaucoup. Lecture d'actu, franceculture.fr. Allez, c'est l'heure du grand jeu des pages musicales, tandis qu'Emmanuel Laurentin boit de l'eau. C'est notre auditrice Séverine qui joue avec nous. Aujourd'hui, elle a trouvé un extrait dans le livre « Revolver » de Duane Sverginski, paru en France en 2020 aux éditions Rivage et traduit de l'anglais par Sophie Aslani. Donc je vous rappelle le jeu quand même. Hein. Elle a trouvé l'évocation d'un air musical dans un paragraphe littéraire. Elle nous l'a envoyé via Instagram, mais vous pouvez aussi le faire via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. Dans l'extrait, on est en 1965 à Philadelphie, sur fond d'émeutes raciales et trafic de drogue. Tout à coup, Stan pense à quelque chose. Il se tourne à demi sur son tabouret et s'écrie « Eh, pas question de nous mettre ta soule de merde !»« Allez, fait George avec un grand sourire, t'adores la soule de merde !» Au fond de lui, Stan trouve que certains morceaux de cette soule de merde sont pas mal du tout, mais il ne l'avouera à personne. Surtout pas à son coéquipier. George glisse le quarter dans la fente et appuie sur un bouton. Des plaques métalliques, trois disques sur chacun, un grand flap étouffé à chaque fois qu'on pousse. Il y a un mélange incroyablement varié sur cette machine, se dit George. Comme si le jukebox n'arrivait pas à décider s'il était installé dans un bar noir ou un bar blanc. George fait sa sélection en appuyant sur trois numéros. Stan boit quelques gorgées et puis entend la voix nasillarde de Solomon Burke sortir des haut-parleurs. « Got to get you off my mind ». Stan secoue la tête et sourit, tapote des doigts sur le comptoir comme si c'était un clavier de piano. « T'inquiète pas, Stanny Boy », dit George qui réfléchit à son dernier choix. « Après, il y aura quelque chose de spécial. Rien que pour toi. Ouais, ouais, j'en doute pas. Flap, flap, flap. » Gonna throw the picture away. You didn't love me any old way. You found somebody new, and our romance is through. Let me tell you, some folks' love is hard and strong. That's the kind of love that lingers on. Some folks' love is swift and fast. That's the kind of love that'll never last. Alors, on n'a plus qu'à remercier notre auditrice Séverine. Quand même, c'est grâce à elle qu'on termine avec cette magnifique chanson. Au son, c'était Élise Leu, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Sarah Masson, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Léa Weisgruss, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovitch. Le Book Club, franceculture.fr, le podcast, l'appli Radio France. Bel après-midi.